Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne durant la case.
Jean Tullard est l'invité de Canal Academy pour nous parler de la deuxième édition de son livre « La contre-révolution, origine, histoire, postérité ». L'ouvrage vient de paraître chez CNRS Éditions en 2013. Il a été édité par Perrin la première fois en 1990. Alors, l'historien incontesté de la Révolution et l'Empire, le maître d'œuvre du dictionnaire Napoléon, a établi avec cet ouvrage, avec le concours de plusieurs historiens, une grande synthèse sur la contre-révolution qu'on estime, juste aujourd'hui en tout cas, de rééditer 23 ans plus tard. Pensez-vous, Jean Tullard, aujourd'hui que la Révolution française et la contre-révolution soulèvent moins d'affect qu'il y a 23 ans? On était au lendemain du bicentenaire dans ces années-là.
Oui, alors je pense que la Révolution reste encore d'actualité, qu'elle continue à passionner. Il suffit de voir les passes d'armes autour de ce que l'on appelait le génocide vendéen, qui a suscité encore des polémiques tout récemment après l'apparition d'ouvrages sur ce sujet. Bref, il y a une passion incontestable et le gouvernement actuel fait référence toujours au principe de la Révolution. Donc, il fallait la rééditer en montrant qu'il y avait la Révolution, qu'il y avait aussi la contre-révolution et en montrant que la contre-révolution ne commence pas à la Révolution, elle est avant la Révolution, comme la Révolution est avant la Révolution, puisqu'il y a une Révolution dans les esprits avant de passer dans les faits, et que si la Révolution s'est terminée, avait dit Bonaparte au moment du coup d'État du 19 Brumaire, puisque le 18 Brumaire, c'était simplement les préparatifs, mais on dit toujours, je ne sais pourquoi, 18 Brumaire, donc le 19 Brumaire avait dit la Révolution est finie. Elle est fixée à ses principes. La révolution n'est pas finie, dira Tocqueville, et la contre-révolution l'est encore moins. Regardez une actualité récente. Il y a bien des gens qui, dans certaines manifestations, pensaient à la contre-révolution et étaient marqués par les idées de cette contre-révolution. Bref, c'est un sujet d'actualité et je pense que dans 10 ans, il le sera encore.
Et d'ailleurs, cet ouvrage faisait terminer en 1990 sur un chapitre qui s'appelle « La postérité ». C'est exactement ce que vous dites sur la postérité de la contre-révolution. Et effectivement, encore récemment, là, disons que ces idées et certaines de ces valeurs font encore écho parmi les Français.
Voilà, c'est un duel, si vous voulez, entre la tradition et le progrès. Alors, bien entendu, ce sont les mots qu'emploient les contre-révolutionnaires, la tradition, le progrès, les révolutionnaires. Il reste à savoir ce qu'on met dedans. Néanmoins, c'est un duel qui a commencé pratiquement au XVIIe siècle, déjà avec Vauban, on sent quelque chose qui frémit, la dîme royale est déjà une mise en accusation de ce qu'on va appeler l'Ancien Régime, mais qui ne l'est pas encore, et ça va continuer après, puisque cette lutte entre le progrès et la tradition est inépuisable.
Alors c'est un grand intérêt du livre, justement, de dresser les origines de la contre-révolution, et on peut même constater, à sa lecture, l'importance d'Edmund Burke, par exemple, sur lequel vous revenez. C'est quand même intéressant de voir que dans les racines de la contre-révolution, il y a des racines extérieures à l'histoire proprement territoriale française.
Oui, bien sûr, les idées
des Lumières étaient européennes.
Les idées des Lumières étaient européennes, la contre-révolution l'est aussi, avec la contamination pour la révolution de la révolution américaine, car beaucoup d'idées viennent pour la révolution de la révolution américaine, qui est elle-même en partie quand même influencée aussi par les Lumières européennes. Bref, on n'en sortirait pas. Ce que j'ai voulu marquer dans, c'était donc la contre-révolution, étudier la contre-révolution sous une forme pédagogique, sous une forme événementiel en même temps qu'on examine les idées, et donc de façon à ce que ce soit un livre qui se lise. Je crois que la vertu essentielle de cet ouvrage, c'est qu'il est d'une lecture extrêmement facile, agréable, tout en étant savant, puisque tous les collaborateurs sont de très haut niveau universitaire. Ce sont même des gens qui ont fait leur thèse sur certains des sujets. Et il y a aussi une chose que je tiens à souligner, parce qu'on pourrait le critiquer, ils ne sont pas tous des historiens de droite, puisque l'on distingue droite-gauche. Droite-gauche, d'ailleurs, c'est une distinction de la Révolution française qui entre tout à fait dans mon sujet, puisque c'est au moment d'un vote à l'Assemblée nationale constituante sur le pouvoir du roi que les députés qui étaient favorables au pouvoir du roi se sont mis à droite et les autres, les adversaires, à gauche. Donc la distinction s'est faite là. Donc les historiens sont des historiens qui ont souvent étudié la Révolution française. Par exemple, le regretté doyen Jacques Gottschaux, qui est mort depuis, était l'une des figures éminentes de la société des études robespierristes, donc collègues d'Albert Soboul et autres. Il y a aussi des universitaires dont la sensibilité était plutôt à gauche. Ils ont présenté avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup d'objectivité, des idées qu'ils pouvaient ne pas partager, mais qu'ils avaient étudié sur le plan universitaire. Et s'il n'y a pas de référence ou très peu de notes dans cet ouvrage, c'était pour ne pas l'alourdir. Il était destiné à un public cultivé, mais quand même large. Mais tout ce qui est affirmé a un soubassement d'archives.
Et d'historiens renommés. Hein.
Oui.
Voilà. Alors, c'est effectivement d'abord un ouvrage de 500 pages pour juste compléter votre propos avec une bibliographie évidemment complète et mise à jour, là, pour 2013. Mais également, il y a une chronologie très, très fournie. Et puis, il y a un dictionnaire à la fin.
Oui.
Et ça, c'est très pratique, justement, pour la lecture, parce qu'on peut se référer aussi. Alors, ce sont des biographies des personnages que l'on rencontre dans cette grande synthèse sur la contre-révolution. Et ce ne sont pas des biographies de quatre lignes. Hein. C'est vraiment, j'allais dire, un ouvrage à part entière dans l'ouvrage.
Oui, tout à fait. Donc c'est un livre à la fois agréable à lire, mais en même temps un livre de référence. Ainsi l'avons-nous voulu. C'est un livre de référence qui fait autorité dans le domaine universitaire. Alors, qu'est-ce que cette contre-révolution ?
Oui. Comment vous pourriez nous définir ce phénomène protéiforme, justement, un peu complexe ?
Alors, il y a une bataille, d'abord, nous commençons par là, la bataille au XVIIIe siècle des esprits. Les Lumières s'imposent de plus en plus, c'est né avant le XVIIIe, il faudra monter à Leibniz, il faudra monter à Vauban, à d'autres, mais nous voyons une remise en cause de la société et des fondements politiques de la monarchie absolue en France. Je dis en France, car il y a eu une révolution en Angleterre, il y a eu des bouleversements ailleurs, mais au fond, ce qui se passe dans cette lutte entre la Révolution française et la contre-révolution française, c'est qu'en réalité, que ce soit la Révolution, et surtout la Révolution ou la contre-révolution, elles sont universalistes, elles débordent le cadre français. Donc c'est une lutte qui commence au XVIIIe siècle où des philosophes, dont la Sainte Trinité, Voltaire, Rousseau, Diderot, remettent en cause les grands principes de la société et du pouvoir absolu. Et face à eux se dressent des adversaires qui n'ont pas eu le prestige des philosophes, parce que ils étaient moins habiles, ils savaient moins faire leur notoriété, mais certains ont vraiment eu beaucoup de courage, qui ont dit, ah mais non, mais qui ont maintenu la tradition, qui ont souhaité que cette société, tout en reconnaissant qu'elle n'était pas parfaite, soit conservée. Donc voilà une bataille d'idées entre ceux qui ne veulent plus d'une monarchie absolue de droit divin, qui ne veulent plus d'une société de privilèges, qui ne veulent plus d'une société figée sur le plan économique par le système des corporations notamment, et qui disent « il faut changer, il faut progresser ». Et ceux qui disent « non, on peut faire évidemment quelques retouches, mais c'est la société idéale, nous sommes dans l'âge d'or ». Alors évidemment, comment tout ce système, cet équilibre qu'il y avait entre révolution et contre-révolution dans les esprits a fini par passer dans les faits, eh bien, c'est la crise financière de la monarchie qui a été le détonateur. Lorsque Louis XVI arrive au pouvoir, sur le trône, le déficit des finances royales est déjà pour l'année de 300 millions. Et il sera en 1789 de 2 milliards. Et on voit des contrôleurs généraux des finances qui essaient de trouver une solution à cette crise financière. C'est Turgot, c'est Necre, c'est le Calonne, c'est l'Homénie de Brienne. Et au fond, la solution de réduire les dépenses, bon, on sait ce que ça veut dire aujourd'hui encore. Donc les réformes économiques, ça dérange toujours des intérêts, donc c'est freiné. Il n'y a, ce qu'avait dit Turgot et ce que reprend Calonne, qu'une solution, c'est l'impôt juste, la subvention territoriale qui pèserait sur toutes les terres sans se soucier des privilèges. Car dans la société idéale de l'Ancien Régime, il y a deux ordres privilégiés, la noblesse qui acquitte l'impôt du sang, le clergé, j'aurais dû commencer par le clergé qui est le premier ordre, qui acquitte par la prière son impôt, et puis, bon, ils ont quelques charges, mais... Et puis, il y a le tiers-État, bourgeois, ouvriers et surtout paysans, qui sont accablés par la taille et par les charges féodales. Donc, il y a un problème. Si l'on veut résoudre la crise financière, il faut accepter ce qu'avait suggéré Turgot, ce que suggère Calonne, une subvention territoriale, un impôt qui pèse sur tout le monde. C'est le premier coup de canif, et même plus que de canif, le système fiscal. Donc, à ce moment-là, les privilégiés, la noblesse, disent, il n'en est pas question, le roi ne peut pas lever un impôt nouveau sans l'accord des États généraux. Ce qui nous renvoie à 1614. Mais vous voyez que c'est une très grande habileté de la noblesse, parce que si le roi convoque les États généraux, c'en est fini de la monarchie absolue, car n'oubliez pas que le roi règne de droit divin, et donc c'est Dieu qui s'exprime à travers lui, donc convoquer les États généraux, c'est mettre fin à l'absolutisme. Et c'est en même temps donner à la noblesse, qui veut la revanche de la fronde, aux vieux féodaux, l'occasion de reprendre le pouvoir qu'elle a perdu sous le roi. Et d'autre part, il est bien évident que si l'on convoque les États généraux, la réforme financière, celle qui ferait payer, comme nous dirions aujourd'hui, les riches, mais à l'époque on dit les privilégiés, eh bien cette réforme, elle ne passera pas aux États généraux, parce que si l'on vote par ordre, comme en 1614, il y a deux voix, des deux ordres privilégiés contre une, le tiers-État. Donc, tout est parti de là. Tout part d'une crise financière. Il faut se méfier des crises financières. Il faut se méfier d'un État qui est au bord de la banqueroute. On ne sait jamais comment ça peut tourner. Eh bien, le roi doit finalement convoquer les États généraux. Et ce sont ces États généraux qui vont déclencher une révolution qui ne s'arrêtera encore qu'au 18 Brumaire.
Est-ce que, au moment de du déclenchement de la révolution, au moment de ce débat sur la réforme financière et fiscale du royaume, est-ce qu'à ce moment-là, la contre-révolution est déjà en marche ? Parce que, d'après ce que j'ai compris, ça se fait assez rapidement, mais c'est juste après.
Alors, il y a d'un côté, effectivement, le tiers-État. Le tiers-État qui, c'est aussi dans un contexte, la convocation des États généraux, de crise économique, de mauvaise récolte, de chômage. Parce qu'il y a eu le traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre qui a ruiné l'industrie textile. Parce que s'il y a une mauvaise récolte, évidemment, les paysans n'achètent plus aux colporteurs qui viennent leur proposer les produits de la ville. Donc, il y a un bloc qui se crée, bourgeoisie, ouvrier, paysan. Et de l'autre côté, il y a les privilégiés qui, eux, continuent. Même si la récolte est mauvaise, le paysan leur donne une quantité fixe de blé. Donc, comme ce blé est devenu rare, il monte. Donc, les privilégiés sont gagnants par rapport aux autres. Donc, il y a immédiatement une bataille. Et dans cette bataille, le roi est l'arbitre. Et c'est là la faiblesse de Louis XVI, c'est qu'il n'a pas eu l'autorité nécessaire pour trancher nettement dans un camp ou dans l'autre, et on voit se développer dans l'entourage de Louis XVI les tenants des partisans des privilégiés, c'est-à-dire Marie-Antoinette, c'est-à-dire Versailles. Donc, vous le voyez, dans ce contexte de départ de l'été 89, il faut l'avouer, la contre-révolution a un mauvais visage par rapport à des gens qui demandent la justice fiscale, qui demandent l'abolition des privilèges et donc qui sont en droit, effectivement, de demander que ça bouge. Donc, il va y avoir une épreuve de force qui aboutira au 14 juillet 1789, c'est-à-dire la prise de la Bastille et à la transformation des États généraux en une assemblée nationale constituante qui va donner ce que réclamait Montesquieu jadis, qui va donner à la France une constitution, c'est-à-dire que le roi cesse d'être absolu, il est monarque constitutionnel. Alors à ce moment-là, il est évident que le camp dur de la contre-révolution doit émigrer.
Et c'est là que se constitue vraiment la contre-révolution, qu'elle va s'incarner, se constituer autour de réaction.
Ceux qui disent que le roi n'a pas tranché librement, qu'il a été victime de pression. Bon, jusque-là, disons-le, la contre-révolution n'est peut-être pas extrêmement sympathique. Mais nous avons évoqué les problèmes politiques, nous avons évoqué les problèmes économiques, mais il reste toujours la banqueroute. L'État est au bord de la banqueroute. Il reste toujours 2 milliards de déficits qu'il faut trouver. Or, les États généraux, quand ils se réunissent, n'ont pas la moindre idée de la solution qu'ils pourraient apporter à ce déficit. Il n'y a qu'un homme qui l'a. C'est Talleyrand. Et c'est Talleyrand qui va monter à la tribune et déclarer que, bon, il y a un déficit de 2 milliards. Eh bien, il a toute la solution. Il a été agent général du clergé. Il a géré la fortune du clergé. Cette fortune représente 2 milliards. Si on nationalise les biens du clergé, la dette est épongée. En apparence, c'est facile comme ça. En réalité, vous ne pouvez pas mettre 2 milliards sur le marché d'un coup, 2 milliards de biens immobiliers, sans que ça s'écroule. Si vous mettez l'avenue Foch en vente d'un seul coup demain, les prix qui sont élevés baisseront très sensiblement. Donc, dit Talleyrand, il ne faut pas mettre tout sur le marché, mais il faut, parce qu'il faut faire face aux dépenses de l'État, qui est au bord de la banqueroute, qui n'a plus de ressources, on va émettre du papier monnaie, c'est-à-dire des assignats. Ces assignats, eh bien, ils vont être gagés sur les biens d'église. C'est-à-dire, vous pouvez à tout moment, théoriquement, les changer comme, contre des biens d'église. Comme jadis, vous aviez un billet de banque, vous pouviez aller à la Banque de France et demander l'équivalent en or, ce qu'on ne vous a jamais proposé, évidemment. Enfin, c'était une convention. Donc là, une convention réelle, là, puisqu'il y avait vraiment les biens d'église. Seulement, ce qui s'est passé, et c'est à ce moment-là que tout à coup, cette révolution qui semblait si sympathique va cesser de l'être au profit de la contre-révolution, c'est que, immédiatement, d'une part, on a émis trop d'assignats, alors que c'est tentant, on a dépassé très vite les 2 milliards. Donc, cela a créé un phénomène d'inflation qui a ruiné un certain nombre de rentiers qui avaient fait confiance aux réformes de la Révolution. Et d'autre part, à partir du moment où on nationalisait les biens du clergé, il fallait l'indemniser. Quand on nationalise, on indemnise. Donc, comment indemniser le clergé qui avait perdu sa fortune, donc qui ne pouvait plus remplir ses fonctions, en faisant un clergé de fonctionnaire. En faisant un clergé de fonctionnaire, or, les fonctionnaires étant élus, le clergé se retrouvait élu à travers une organisation qu'on appelait la Constitution civile du clergé. Cette Constitution civile du clergé, on l'a votée à l'Assemblée constituante sans se soucier du pape, réflexe gallican, mais c'est que le pape ne l'a pas admis comme ça, que une partie des fidèles, des catholiques, ont été profondément choqués par cette nationalisation des biens du clergé, par cette façon, cette organisation brutale qui était donnée, et donc voilà que le catholicisme bascule, en grande partie, pas entièrement, dans le camp de la contre-révolution et que celle-ci se trouve renforcée pas le caractère religieux.
Vous écrivez que la violence des idées engendre la violence des actions dans votre préface. Et là, on voit dans ce que vous venez de nous expliquer que la contre-révolution prend forme et corps dorénavant avec des déçus de la révolution.
Oui.
Et là, il y a un basculement justement face à la radicalisation aussi de la révolution.
La révolution s'est radicalisée d'emblée dès le 14 juillet quand on coupe la tête du gouverneur de Launay et celle du prévôt des marchands Flessel qu'on la promène au bout d'une pique. C'est les premières. Il y avait déjà les meutes réveillon, mais là, c'est vraiment la première terreur. Surtout qu'on fait grand soin, on ne coupe pas les têtes comme ça. C'est un commis charcutier qui découpe la tête de Launay, le gouverneur de la Bastille. Elle est apprêtée, on la met sur une pique et on la promène. Donc, c'est pour terroriser. Donc, à cette violence va inévitablement répondre une autre violence qui va s'aggraver de part et d'autre. D'un côté, on va guillotiner le roi. De l'autre, les partisans du roi vont être horrifiés et donc vont prendre les armes. À partir du moment où la révolution entre en guerre contre l'Europe, on voit l'armée des émigrés servir aux côtés de l'envahisseur. Et on voit à l'intérieur de la France des insurrections, dont la principale, la plus populaire, c'est la Vendée.
Voilà, la révolte des Chouans. Pourtant, vous expliquez, grâce à cet ouvrage, La contre-révolution, origine, histoire et postérité, je rappelle le titre, que justement, on ne peut pas réduire la contre-révolution à la figure du Chouan. Qu'il paraît bien difficile, justement, d'établir le portrait type du contre-révolutionnaire, tout simplement parce qu'elle est multiforme, cette contre-révolution. Comme vous venez de l'annoncer, elle prend forme dans diverses régions de France et qu'elle se nourrit aussi de ces immigrés qui sont dans les autres pays d'Europe. Alors justement, c'est le grand intérêt de cet ouvrage d'avoir donné cette dimension plurielle de la contre-révolution. Vous pourriez présenter justement ce qui est un peu inattendu pour nos auditeurs qui pourraient penser que la contre-révolution, c'est... un paysan, un chouan, parce que c'est cette image qui a été aussi transmise par la littérature après.
Oui, ce n'est pas que l'ouest de la France qui se révolte pour diverses raisons, heurte des convictions religieuses, fidélité au roi, mais aussi refus d'aller servir loin du village pour défendre des intérêts qui ne sont pas ceux de ces paysans de l'Ouest. Mais il y a d'autres régions qui s'insurgent, c'est par exemple Lyon. L'insurrection de Lyon sera très violente. Il y a le Midi, le Sud-Est, avec des bandes même, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus très bien où commence le brigandage, où se finit la contre-révolution. Il y a des zones entières qui échappent à l'influence. Bordeaux est une ville aussi aux mains des Girondins, mais alors c'est une révolte fédéraliste et pas contre-révolutionnaire. Mais vous avez la carte de la France a conduit à un moment donné à un rétrécissement très, très curieux, c'est-à-dire qu'on arrive presque au domaine royal qui était celui du départ des Capétiens, non seulement le domaine royal, c'est-à-dire Paris et l'Île-de-France, et puis les régions frontalières à partir du moment où il y a la guerre. Parce que le Nord et l'Est restent quand même dans la Révolution, même si l'Est est profondément catholique. Bon, il n'y a pas... C'est plutôt dans le Midi et dans l'Ouest que se situent les foyers de contre-révolution, c'est-à-dire de gens qui disent « Non, nous ne pouvons pas accepter qu'il n'y ait plus de monarchie. Non, nous ne pouvons pas accepter que les prêtres que nous disposons ne sont que des prêtres jureurs qui ont accepté la constitution civile du clergé. Non, nous ne pouvons pas accepter que les seigneurs soient maltraités, soient arrêtés, soient guillotinés comme contre-révolutionnaires. » Bref, il y a un rejet de ce qui était, au fond, le programme de la Révolution.
Est-ce qu'il y a un lien entre ces révoltes et la pensée contre-révolutionnaire avec ceux qui intellectualisent cette... Enfin, c'est peut-être pas le bon terme, excusez-moi, mais qui pensent, oui, cette contre-révolution?
Alors, la contre-révolution...
Ou est-ce que ce sont, justement, au sein de la contre-révolution, des phénomènes totalement séparés?
Je crois que vous l'avez dit, ce sont des phénomènes très séparés, très isolés. Il n'y a pas un chef d'orchestre de la contre-révolution. Et c'est la raison pour laquelle elle va échouer. C'est-à-dire que même au début, l'insurrection vendéenne, c'est une insurrection populaire. ce sont des paysans. Ce n'est pas du tout un complot des immigrés. Elle n'est même pas encadrée au départ par des nobles. Ils vont eux-mêmes chercher des nobles pour leur dire « Nous n'avons pas la compétence nécessaire pour nous battre. Nous avons formé une armée, mais nous ne savons pas nous battre face à une autre armée. Et donc, on va faire appel à des chefs chouans ou vendéens, Charette, Stofflet. » Donc, il va y avoir un encadrement, mais entre l'ouest de la France et le Midi, il n'y a pas de lien étroit, il n'y a pas de coordination. Il y a des gens qui peuvent, à l'extérieur, tirer certaines ficelles de Londres ou de Genève, mais il n'y a pas de véritable chef de la contre-révolution.
C'est ce qui a manqué.
C'est ce qui a manqué.
C'est comme...
et même les doctrines finissent par se confondre. Il y a d'un côté le gallicanisme, de l'autre il y a le royalisme, il y a aussi le fédéralisme qui s'en mêle, il y a des intérêts locaux. Bref, la contre-révolution n'est pas Dieu et le roi, voilà le mot d'ordre que l'on dit, Dieu et le roi, mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et bon, alors ce qui va être le grand sujet de débat, c'est la répression de cette contre-révolution. Et c'est encore aujourd'hui ce qui est profondément ressenti, ce qui est sensible, ce qui est sujet à polémique. La révolution, c'est-à-dire Paris, qui est le centre de la révolution, va répondre à cela par la terreur. Je vous ai dit, dès le 14 juillet, ça commence avec les têtes promenées au bout d'une pique, et donc on va mettre la terreur à l'ordre du jour. On va établir un tribunal révolutionnaire. C'est-à-dire que maintenant, voyez, c'est la révolution qui est méchante. Dans le premier temps, je vous avais dit, c'est la contre-révolution. C'est le comte d'Artois, c'est Madame de Polignac, c'est ces gens et qui veulent que le sang coule, qui n'hésitent pas à envoyer l'armée à Paris avant le 14 juillet. Maintenant, c'est la révolution qui devient sanguinaire et qui va réprimer durement, et surtout, alors c'est le grand sujet, qui va réprimer, après avoir défait l'armée des Vendéens. On voit très bien que cette contre-révolution n'est pas organisée. L'armée des Vendéens a eu, à deux reprises au moins, en tout cas sûrement, le chemin de Paris ouvert. Elle pouvait marcher sur Paris, elle ne le fait pas, parce qu'ils sont perdus dès qu'ils sont trop loin de leur village, et parce qu'ils ne comprennent pas les opportunités stratégiques. Bref, l'armée vendéenne va être défaite au Mans et ensuite il va s'abattre sur l'ouest de la France, une répression. Alors, bon, bien entendu, on appelait ça un génocide.
Ça a fait polémique dans les années 90, même avant.
Et même encore aujourd'hui.
Et encore aujourd'hui.
Alors, le mot génocide a été, disons-le, forgé.
Quelle est votre vision sur cette polémique?
Alors, à propos de la thèse de Secher, que Pierre Chaunu, qui fut mon confrère à l'Académie des sciences morales et politiques, avait appelé le génocide franco-français. C'est, me semble-t-il, d'après ce que j'ai compris, je ne peux pas être formel, lui qui aurait suggéré à Secher ce mot de génocide parce que c'était un mot qui était effectivement à l'époque employé à propos de la Shoah, à propos du Cambodge. Donc, Pierre Chaunu voyait là un mot fort. Seulement, et effectivement, ce mot fort, il a choqué. Il aurait peut-être mieux valu employer le mot Gracchus Babeuf avait employé, car Gracchus Babeuf n'hésite pas à dire qu'il y a eu des atrocités en Vendée, et qui était le mot populicide. Populicide voulait mieux dire que génocide, parce qu'au fond, les Vendéens ne sont tout de même pas une race. On extermine plutôt des gens, un peuple, quand on pense qu'on ne pourra jamais le récupérer dans les principes de la Révolution, et donc il faut l'exterminer. C'est comme quand vous avez des microbes, il faut exterminer ça, parce qu'ils ne sont pas, on ne peut pas les vivre avec, et on ne peut pas les récupérer. Donc bien sûr, progressivement, pas peut-être au début, parce que en réalité, il faut bien comprendre, les premiers massacres, ce sont des massacres parce qu'on a affaire à la guérilla. Quiconque a eu affaire à une guerre de guérilla, évidemment, ça entraîne immédiatement des représailles sur les civils. Ça, même en Algérie, nous l'avons connu aussi. Dès qu'il y a guérilla, eh bien, ce sont les civils qui prennent les premiers, parce que c'est sur eux qu'on passe les nerfs. Donc, y a-t-il eu au départ une volonté nette d'exterminer les Vendéens et les Chouans, ou s'agissait-il simplement de terroriser, de frapper ou d'éliminer, parce qu'on ne pouvait plus garder dans les prisons, ça aurait été la cause des noyades de Nantes. En tout cas, il y a deux choses. On peut contester le mot « génocide », on ne peut pas contester, comme quand même s'obstinent à le faire certains, les atrocités des Bleus, qui sont réelles. Ça, on en a des preuves flagrantes.
Alors, à l'époque, je sais que les historiens se bataillaient sur les chiffres, etc. Aujourd'hui, ça représente combien de victimes
Je ne vous le donnerai pas, dans la mesure où je ne les ai pas comptées. Si vous me demandez les morts de la Grande Armée de Napoléon, j'ai eu le document. Là, c'est pas moi d'ailleurs qui ai fait.
Mais sur quoi on s'entend aujourd'hui, j'allais vous demander.
Alors ça varie entre 200 000 et 2-3 millions. Les chiffres sont très variables.
Et donc, pour la Grande Armée, vous disiez ?
À la Grande Armée, on...
Pour avoir qu'on ait, puisse comparer ?
On a, c'est 900 000, pas tout à fait le million. Pourquoi ? Parce
énorme,
que là,
même,
on peut compter les morts de la Grande Armée. Enfin, pas tout à fait, mais pour les premières batailles, vous avez les contrôles des troupes. Donc, mes élèves, notamment Bernard Quintin, a contrôlé. Et donc, vous voyez combien, eh bien, à Austerlitz, il y a 2% de pertes. De côté français, j'entends. Et donc, ce n'est pas énorme. Les contrôles de troupes vous montrent, alors qu'on a tendance, et même à Eylau, où moi-même, j'ai eu longtemps tendance à penser que c'était épouvantable, c'est beaucoup moins qu'on ne le disait, parce que la puissance de feu de l'époque n'était pas comparable à celle d'aujourd'hui, à celle de la guerre de 14-18. Quand Murat charge avec ses cavaliers, il se heurte à un rideau de gens qui tirent avec des fusils. Lorsqu'on voudra réappliquer ces principes en 1914-1918, à ce moment-là, il y aura les mitrailleuses, il y aura les canons 75, et donc ce sera épouvantable. Mais ça n'était pas comme ça, et on a eu tendance à confondre beaucoup. Mais il y a au moins 900 000 morts.
Alors, pour vous évoquer Napoléon, la contre-révolution a échoué, comme vous nous l'avez dit,
oui,
tout à l'heure. Est-ce que Napoléon, justement, n'a pas été le fossoyeur aussi, on dit parfois de la révolution, de la contre-révolution ?
Alors oui, effectivement, la situation de Napoléon est très particulière. Incontestablement, la révolution s'arrête, elle n'ira pas plus loin sur le plan social, elle ne fera pas l'égalité parfaite, était-ce possible ? Elle ne restaure pas le roi, mais elle établit une nouvelle monarchie, ce qui a été voulu par des gens qui ont symbolisé la contre-révolution, comme Fontane, comme Fievé, que j'étudie dans mon... Et qui donc pensent que, après avoir s'être battu pour le roi, ils pensent que les Bourbons ne pourront pas revenir, et donc que l'on va établir une nouvelle dynastie, celle des Bonaparte. En réalité, Napoléon va échouer dans ce domaine, dans la mesure où il fallait le temps. Et les Bonaparte ne s'imposent pas comme dynastie, faute de temps, parce que la défaite arrive et que la seule légitimité de Napoléon, c'est la victoire. Mais Napoléon, il fait une chose, c'est qu'il consolide les conquêtes de la Révolution. On ne va plus revenir sur ces conquêtes. Ces conquêtes, c'est quoi ? Bien, il prête serment le jour du sacre. Et que dit-il lorsqu'il prête serment le jour du sacre et qu'il est empereur ? Donc à ce moment-là, il dit « Je jure de défendre les conquêtes de la République. Je m'engage à défendre l'égalité des droits, la vente des biens nationaux, ce transfert de propriété » que j'ai évoqué au début de l'émission, de l'Église, faire les paysans qui ont acheté les terres de l'Église ou les biens des émigrés. Il défendra aussi la liberté, enfin, du moins, il s'engage. Et par conséquent, les conquêtes de la Révolution, notamment l'égalité, sont sauvées. Car quand Talleyrand en 1814, puis Fouché en 1815, restaure finalement Louis XVIII, ce n'est plus la même société qu'en 1789. Et Louis XVIII, lorsque, à la mort de l'enfant du Temple, qui est certainement mort au Temple, Louis XVII est mort, ne s'est pas évadé, il est mort au Temple, tout semble confirmé, donc, sans qu'on puisse être formel à 100%, évidemment. Et donc, Louis XVII, mort au Temple, le comte de Provence devient Louis XVIII, et par la proclamation de Vérone, il annonce en 1795 qu'il va tout restaurer, tout l'ancien régime, les droits féodaux, la monarchie absolue, etc. Donc, à ce moment-là, ça balance, on ne sait pas. En 1814, quand Talleyrand le restaure, c'est la charte, c'est-à-dire qu'il est un monarque non plus de droit divin mais constitutionnel, qui reconnaît l'égalité, qui reconnaît ce transfert de propriété qu'avait été la vente des biens du clergé. Et donc, à ce moment-là, eh bien, nous voyons que les grandes conquêtes de la Révolution, les idées d'égalité et de liberté, ont été préservées par Napoléon et qu'en définitive, la contre-révolution de 1795 a finalement échoué dans ce domaine.
Ça a été le plus sûr rempart contre la contre-révolution.
Napoléon était le plus sûr rempart contre la contre-révolution. Et il faut y ajouter l'intelligence de Louis XVIII, qui comprend qu'il est très difficile de revenir en arrière, que la tradition, c'est bien, mais qu'il y a aussi le progrès, qu'il y a une évolution. Et donc, Louis XVIII comprend que s'il veut sauver le principe monarchique, il faut qu'il accepte un certain nombre de concessions. Et il les réacceptera alors encore plus durement en 1815, puisque c'est Fouché. La première restauration est faite par Talleyrand, l'évêque apostat, et elle est faite en 1815 par le conventionnel régicide. Et c'est dans cela que la contre-révolution finit quand même par l'emporter. Parce que qui avait prédit ça? Qui avait dit que ça finirait comme ça? C'est Joseph de Maistre, la grande figure de la contre-révolution dont j'ai réédité il y a quelques années les considérations sur la France. Joseph de Maistre avait tout prédit et donc, effectivement, en définitive, oui, la révolution triomphe, mais oui, la contre-révolution triomphe.
Triomphe aussi.
Vous voyez, donc, on n'en sort jamais.
Merci Jean Tullard de cette magnifique synthèse. D'abord dans cet ouvrage, Jean Tullard, La contre-révolution, origine, histoire et postérité. Et puis également d'avoir fait partager à nos auditeurs cette belle évocation de la contre-révolution. Merci monsieur.